Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous, c'est Alix et bienvenue dans cet épisode de Popcorn sucré, l'épisode 19. Je suis avec Clara.
Salut.
Et avec Pauline.
Hello.
Et sans plus tarder, on peut commencer directement avec la chronique de Clara.
Alors aujourd'hui, moi j'ai décidé de chroniquer un documentaire qui est sorti donc en 2022 en Russie et qui s'intitule How to Save a Dead Friend. Donc le nom d'anglais pose un peu la couleur du film, je trouve. Qu'il a été réalisé par Marussia Sirueshkovskaya, donc nom prénom que je n'ai pas envie d'écorcher parce que je la respecte beaucoup. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Et donc en fait, c'est un documentaire qu'elle a réalisé en prenant pour base en fait son propre vécu, sa propre histoire, sa propre vie, parce qu'en fait ça se tourne sous la forme d'un vlog. En fait, elle va commencer à filmer à partir de 16 ans, et à 16 ans elle est très déprimée, elle est pas bien du tout. Elle a décidé que l'année de ses 16 ans ça sera la dernière année où elle vivra et où après elle mettra fin à ses jours. Et elle a décidé de commencer à chroniquer ses journées en cette dernière année de sa vie. Et en fait, elle ne va pas mettre fin à ses jours, finalement, enfin, on le découvre assez rapidement dans le film, elle l'annonce d'emblée, parce qu'elle va rencontrer un jeune garçon de son âge, qui s'appelle Kimi. Et avec ce jeune garçon, ça va être l'amour fou, enfin, ça va être vraiment le coup de foudre, ils vont s'adorer, ça va devenir des espèces d'âmes sœurs, ils vont se marier très très jeunes. Et en fait, ce qu'elle pensait être les chroniques de la dernière année de sa vie vont se transformer en un très long vlog, qui va s'étaler finalement sur 10 ans. Et en fait, ce vlog-là, qui filme donc de manière très intime la relation de Kimi et de la réalisatrice, se pose sur le fond en fait de tout le contexte actuel russe, et de surtout de la manière dont les jeunes russes vivent en fait à Moscou, donc dans la capitale, et de l'atmosphère en fait qui règne pour ces jeunes-là. Et on se rend compte, enfin moi je sais qu'en tout cas c'est un truc qui m'a vraiment... parce que c'est un film très dur, hein. C'est vraiment un film dur, parce qu'on se rend compte de la morosité du quotidien des jeunes russes de nos âges, parce qu'elle a entre 16 et 25 ans quand elle filme, donc c'est notre tranche d'âge, quoi. Et on se rend compte vraiment que ce qu'ils vivent est absolument horrible, en fait, parce que, et au début, j'ai vu le documentaire et j'arrivais pas bien à décrire en quoi c'était horrible précisément, parce qu'il y avait pas vraiment d'actes concrets. Et en fait, c'est en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce qui était horrible, c'est qu'ils n'avaient absolument aucune perspective d'avenir. Tout plus ou moins leur est interdit, mais en même temps c'est pas vraiment interdit, mais le fait même qu'ils puissent vivre des expériences banales comme le fait d'aller à des concerts, le fait d'aller dans des boîtes de nuit, ils le vivent mais de manière un peu cachée, mais c'est pas vraiment caché, enfin on sait pas trop, mais en fait on se rend compte qu'ils sont toujours contenus dans tout ce qu'ils font, mais dans vraiment littéralement tout ce qu'ils font, et ils étouffent tous, et on se rend compte que il y a énormément de vagues de dépressifs en fait chez les jeunes russes, et je trouve que c'est un sujet dont moi j'étais pas du tout au courant, parce qu'on n'entend pas vraiment parler du ressenti des jeunes russes. On sait qu'ils sont endoctrinés, qu'ils sont soumis à énormément de propagande de la part du gouvernement de Poutine, mais on sait pas vraiment du coup quel est leur ressenti. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de cet enfermement qu'ils subissent? Et ce film nous répond un petit peu à cette question. Oui, ils le sentent. Et ils sont pas du tout... Enfin, voilà, je me prononcerai pas du tout au nom de tous les jeunes russes à partir de ce simple film. Mais en tout cas, il y a une grande partie dans la capitale russe de jeunes qui se rendent compte de cet enfermement dont ils sont victimes et qui les poussent à être dans un état mental absolument dégradé, quoi. Et ils sont tous constamment exposés à la drogue, tout ce qui peut en fait leur permettre de s'échapper de ce quotidien super morose. Et en voyant le film, je trouve que on se prend vraiment une claque, quoi. On se rend pas compte d'à quel point il y a une espèce d'atmosphère déprimante qui règne dans une partie de la jeunesse russe. Et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup étonnée, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi je me disais ça va être un vlog un petit peu sur la relation surtout, peut-être sur fond un peu politique, mais c'est plus politique que intime, en fait. C'est par l'intime qu'on rejoint le politique directement, et j'ai trouvé ça juste magique, en fait. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle a fait un travail qui était et qui évoque plein de sujets en même temps, qui évoque du coup d'une part la politique russe, le fait d'être enfermé dans un régime où on ne peut pas s'exprimer en tant que jeune, mais elle évoque aussi l'adolescence, le fait de se rechercher. Comme elle le dit, elle a commencé à filmer à 16 ans, elle était vraiment pas bien. pour le régime, enfin pour en raison du contexte politique de son pays, mais aussi pour d'autres raisons, parce qu'elle se cherchait elle-même, parce qu'elle avait des problèmes dans sa famille. Enfin, bref, ça évoque plein de questions qui touchent au développement de la jeunesse et de la manière dont on grandit et dont on expérimente ses premières relations. Et voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. Et je trouve que, bah, je le répète, mais on se prend vraiment une claque quand on voit le film. Alors, petit disclaimer, il y a quand même pas mal de passages qui sont physiquement durs à regarder. Enfin, je sais que moi, il y a plusieurs fois où j'ai vraiment détourné le regard, parce qu'enfin, il y a des scènes vraiment, enfin, ils se mettent mal, on les voit se droguer, enfin, avec de l'héroïne, des trucs comme ça. Il y a des scènes de mutilation et tout. Enfin, c'est un film qui faut être accroché, faut pas le regarder en disant un cocooning dimanche soir sous la couette, je vais me faire un petit chocolat chaud et puis je regarde ça. Non, c'est pas le thème du tout. Okay. Les gars, d'accord, c'est vraiment un thème. Tu le regardes, il faut être bien accroché, il faut être dans un bon jour, on va dire. mais je conseille vraiment à tout le monde, parce que ça permet vraiment d'apprendre sur toute une partie de la jeunesse russe, dans une partie du monde dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler de ce point de vue-là. Et du coup, j'ai trouvé très enrichissant, et je sais qu'il a été quand même pas mal reconnu. La preuve, c'est que du coup, il est sélectionné pour le prix de cinéma des jeunes de France Culture à Cannes. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de retentissements. Il y a eu des articles qui ont été vraiment absolument élogieux de ce film. Enfin voilà, tout le monde en a jeté des fleurs à la réalisatrice, à juste titre. Et voilà, même elle, je trouve que c'est une personnalité extrêmement complexe. On la voit se développer tout au long du film. On voit un peu son parcours pour lutter contre justement cette espèce de dépression qui guette un peu tout son entourage. Et elle-même, elle est dans une espèce de lutte interne avec ses propres pensées. Et c'est vraiment très intéressant à voir.
Ça doit avoir un écho en plus avec la guerre en Ukraine en ce moment.
Ah oui, carrément. Ah mais complètement, ouais. C'est vraiment... Et puis même, on voit... C'est un peu par... par nuance, enfin c'est par des petites touches comme ça, c'est pas dit explicitement, elle ne parle jamais ou presque jamais du régime politique de manière explicite, c'est juste par image comme ça qu'elle balance. Donc on voit par exemple sans forcément d'explication, elle se filme pendant des manifestations contre le régime de Poutine et elle montre, enfin elle filme vraiment des gens de manière mais très très proche, hein. Des gens se faire frapper de manière très violente par la police justement, mais avec des matraques, enfin vraiment on voit des jeunes gens qui ont à peine 15 ans qui se font frapper par des policiers de manière très violente. À un moment, elle commence à qualifier la Fédération de la Russie de Fédération de la Dépression. Enfin voilà, mais elle se prononce jamais vraiment. C'est toujours un petit peu comme ça, par petites touches. Mais en même temps, c'est extrêmement fort de sens. C'est pas parce que c'est pas explicite que ça en est moins fort de sens. C'est implicite, mais c'est vraiment percutant, je trouve. Donc c'est très intéressant à voir, je trouve, comme manière de montrer un peu ce qui se passe. Et je sais, j'ai pas complètement fini mes recherches sur le retentissement que ça a eu en Russie, mais je crois qu'elle n'habite plus en Russie, en tout cas cette chère réalisatrice. J'en suis même sûre à 100% d'ailleurs, elle n'est plus en Russie. Enfin bref, donc ça montre quand même qu'il y a eu une espèce de censure du film là-bas qui a été assez importante. C'est intéressant.
Ouais, ça prouve son efficacité.
Voilà, exactement. Ouais, ça, ouais. Ça répond, on va dire, à l'objectif de la réalisatrice. Voilà.
Okay. Bah, merci beaucoup, Clara, pour ta chronique. Moi, je vais continuer, puisque avec Pauline, on a vu le même film et on va pouvoir échanger un petit peu dessus. Je vais vous parler de Borgo, un film qui est sorti donc, la semaine dernière et qui a été réalisé par Stéphane Desmoustiers. Et donc qui raconte l'histoire de Mélissa, qui est donc une surveillante pénitentiaire qui quitte le continent pour s'installer en Corse avec son mari et ses deux enfants pour se donner l'occasion d'avoir un nouveau départ. Et donc elle va intégrer une unité d'une prison corse qui est assez particulière puisqu'elle est à régime ouvert, c'est-à-dire que les prisonniers peuvent circuler comme ils veulent et ils cohabitent dans un espace commun, ils ne sont pas enfermés dans des cellules toute la journée. Donc c'est assez particulier, apparemment c'est une innovation dans la prison puisque c'est la seule unité qui est sous ce régime-là. Et ça va avoir son importance puisque tout le film va se tourner autour de son intégration dans cette fameuse unité et de la façon par laquelle elle va essayer de créer du lien avec les prisonniers pour établir un cadre de travail agréable, plus positif et puis pour briser ce cadre juste de... briser le cadre de prisonnier à gardien puisqu'elle reste très professionnelle. Bon voilà. Mais bon voilà. Oui. Mais vous avez compris. Je veux pas spoiler en fait. Bref, en fait, l'histoire elle va vraiment avoir son point de tension quand elle va se rapprocher d'un des détenus qui émane une certaine aura assez attirante, assez charismatique et qui a en fait une emprise énorme sur le reste de la prison. Et qui va donc l'aider à se faire respecter du groupe et à trouver sa place. évidemment en prison, et comme ailleurs, on ne rend pas service gratuitement. Et donc, en fait, va s'enclencher très vite un jeu de dettes à rembourser, Oui, en fait, c'est le dette, je pense que c'est le mot le plus pertinent pour décrire ce qui va se passer, parce qu'elle va être un petit peu obligée de rendre service à son tour, etc. Le film en lui-même, il a des mécanismes scénaristiques hyper intéressants. On montre bien comment la situation elle s'envenime très facilement sans recours à la violence, parce que elle est contrainte plus moralement par l'honneur, par une dette morale, par presque une amitié qui se transforme presque en relation intime, mais c'est très bizarre. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est bon, si on avait juste montré une dette avec une menace physique, bon, enfin, voilà. Et donc c'est ça vraiment, c'est sur cette petite tension que le film se joue, en fait. On montre bien aussi les jeux de pouvoir, de pression au sein de la prison, les mécanismes d'autorité, la hiérarchie au sein du groupe, avec des rôles qui sont bien définis et qu'il ne faut pas respecter, quoi. Et puis la fin, je ne développerai pas la fin puisque c'est quand même l'aboutissement du film, on va dire, donc je vais pas vous le gâcher, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le rôle de la famille, il a été quand même hyper central dans le déroulement de la fin et dans l'aboutissement du film, et je trouve que c'est assez intéressant parce que le film se concentre énormément, presque que sur la profession de l'héroïne, et finalement pour faire un retour aux sources et de la famille et de ses enfants, quoi. Donc je trouvais ça vraiment très sympa. Et d'un autre côté, j'ai écrit dans mes notes que le film était un peu bancal, c'est peut-être un peu méchant, mais j'ai trouvé à certains moments que le film avait une banalité qui arrivait pas à laquelle il n'arrivait pas à se débarrasser, quoi. En fait, on comprend vite que Mélissa, elle rentre dans le jeu du détenu parce qu'elle subit des pressions, parce qu'il y a l'effet de groupe, etc. Et d'un côté, d'un autre, elle retourne d'elle-même vers le mec sans être contrainte. Alors, ok, oui, c'est parce que peut-être elle a besoin d'adrénaline, un petit peu d'action, etc. Pourquoi pas, mais je sais pas, il y a un truc qui a pas fonctionné, ça m'a pas forcément convaincue. Du côté de la réalisation, j'ai trouvé au début que c'était extrêmement esthétique, l'image colorée, chaude avec le grain, qui rappelle le souvenir de vacances, vraiment au début du film, pour vraiment montrer que on arrive en Corse, nouveau départ, on a des attentes, on pense que ça va bien se passer, et puis finalement, en fait, tout le reste du film, on a une image... assez simple, assez banal pour se rentrer dans le quotidien. Je sais pas si t'as perçu la même chose, Pauline, pour cette dégradation de l'image au début qui est très belle et puis ensuite qui perd un petit peu de son intérêt visuel, on va dire. Mon autre critique, c'est que l'ambiance en elle-même, elle aurait pu être éventuellement plus travaillée. Moi, je suis quand même fan de thriller policier, quand même bien lourd, bien tendu. Et donc là, le truc, c'est qu'on est quand même dans une prison, l'héroïne, elle subit des menaces, des pressions, donc j'aurais vraiment pu m'attendre à une ambiance quand même plus lourde, oui. Donc, ok, oui, certes, on tombe pas dans le gros cliché, ouais, la prison, en plus, c'est la seule femme, en plus, on tombe pas dans le cliché, mais du coup, on reste presque à plat, et voilà, on aurait pu oser tenter un petit peu plus de tension de ce côté-là. Donc voilà, personnellement, le film, il est vraiment pas mauvais parce qu'il a quand même vraiment de très bons points, que ce soit au niveau scénaristique ou même de la réalisation. D'un autre côté, voilà, il aurait pu me séduire complètement en étant un petit peu plus en se permettant d'oser, en fait, d'aller un peu plus loin dans l'angoisse, dans l'emprise, dans la manipulation. Donc voilà, c'est quand même un plutôt bon film. Moi, j'avais pas l'habitude de voir un film sur les prisons corses, donc c'est un beau voyage. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, Pauline.
Du coup, moi, je pense que j'ai été un peu plus conquise que toi. J'ai vraiment passé un excellent moment parce que je trouve que le film, justement, tout ce que tu peut-être lui reproches un peu sur le côté thriller et la mise en scène qui est pas assez resserrée ou du moins pas assez dynamique et pas assez en tension, je trouve que justement c'est là où ça nous laisse une capacité à interpréter la situation et à poser des doutes sur le personnage principal, dans le sens, comme tu l'as si bien dit, il y a une espèce d'attirance et d'attraction entre les personnages qui joue énormément. Il y a une volonté surtout de trouver sa place, en fait, je trouve, de ce personnage féminin, forcément, mais qui n'est pas dans le cliché, c'est-à-dire dans une opposition, dans une fraternité absolument directe avec les prisonniers. Mais justement, cette représentation de la prison, je l'ai trouvée super intéressante parce que, bah, comme c'est une prison ouverte au début et on peut voir que c'est limite familial à l'intérieur, enfin, comme tu le dis si bien, il y a vraiment l'ambiance orange très chaude, etc. Il y a ce personnage qui finalement se confronte à un milieu carcéral qui nous étonne. On sent quand même qu'il y a une tension en sous-texte parce que la mise en scène nous met littéralement en tension avec des couloirs très exigus à des moments et en même temps il y a des grandes chambres assez lumineuse dans lesquelles elle entre, mais voilà, il y a quand même cette caméra un peu portée épaule qui est un peu vacillante, donc on sent quand même qu'en sous-texte, voilà, il y a de la violence, mais ce qui est intéressant, c'est que la violence en elle-même, on va la trouver en dehors de la prison, je trouve. Dans une scène où finalement on la voit dans son domicile familial ou devant sa maison avec ses enfants, et là on sent que là il y a un truc qui dérape, enfin, c'est le moment où ça dérape et c'est en dehors de la prison, et en fait tout ce qui va se passer d'une violence absolue dans les sentiments et dans les relations entre les personnes va se passer en dehors de la prison avec du coup des gens qui sont manipulés les uns entre les autres. Et le fait d'avoir mis ça donc sur le territoire corse, outre le fait que en vrai tout ce qui est mafia, gang et tout ça fonctionne très bien, je trouve que ça a étendu la prison à l'île en entier. C'est-à-dire qu'on est sur un truc insulaire où on a une impossibilité de s'échapper, ou alors il faut prendre le bateau et c'est très long. Enfin, on a ce truc qui prend un peu à la gorge de cette tension sur une île. Donc je trouve que ça rajoute ça, et le fait directement voilà, de sortir de la prison, d'avoir un film sur la prison qui se passe surtout en dehors, avec des prisonniers qui sont en dehors de la prison, sur les entrées et les sorties, etc. Ça, je trouve ça super intéressant. Et le personnage de Mélissa, je le trouve ultra complexe parce que c'est la seule personne qui a une identité. D'autant qu'en plus elle a son collier avec vraiment son prénom, Mélissa. Elle est identifiable par tout le monde, alors que tout le monde autour d'elle joue un double ou triple jeu. C'est-à-dire que des gens qui sont dans la confrontation, qui sont en prison, qui sont sous un leader, peuvent carrément d'un coup s'arrêter de revendiquer quoi que ce soit et suivre de manière quasi militaire la personne phare du groupe, parce qu'elle a dit bah, finalement en fait on va arrêter de manifester et voilà. Donc on a cette manipulation des gens les uns avec les autres. Et je trouve que justement le film montre extrêmement bien ça. Et aussi, comme tu disais, au niveau de la construction scénaristique, outre le fait d'avoir placé ça sur une île et tout, il y a deux récits en parallèle qui suivent, selon moi, une architecture qui est ultra complexe et en même temps ultra bien pensée, parce que il y a tout un axe scénaristique qui va à l'endroit, donc qui suit le personnage principal, et toute une enquête qui mène les deux axes scénaristiques mènent au même point. C'est un peu comme ce que Nolan a fait dans Memento. Alors, on aime ou pas Nolan, le fait est que moi je trouve que c'est un scénariste extraordinaire, et du coup il a cette magie du scénario, et dans Memento il a deux axes narratifs qui se rejoignent, et je trouve qu'il y a un peu de ça dans ce film là et c'est vachement intéressant. Et en plus, ouais, ça nous montre un peu l'accent corse. Voilà, il y a tout ça. Voilà, j'ai une personne qui du coup m'écoute et qui m'a dit j'espère que tu vas dire du bien du territoire corse. Et du coup, voilà, j'en dis du bien parce que ça fonctionne très bien dans ce film-là. Après, on le voit pas trop. Enfin, je trouve que justement, c'est assez étonnant parce qu'on voit pas tant les paysages corses que ça. Enfin, on voit une église à un moment, mais voilà, enfin, c'est plus sur la prison et l'enfermement, le sentiment d'enfermement avec toute cette utilisation des grilles et tout. Ça, on pourrait faire des heures d'analyse, mais à la Antonioni, il y a vraiment ce cadrage sur des endroits avec des grilles aux fenêtres qui est super intéressant aussi, forcément, pour l'univers carcéral. Donc voilà.
Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. En vrai, faut quand même lui reconnaître au film que niveau réalisation, même quand tu l'as dit, oui, j'ai pensé direct l'île qui est en même temps un huis clos parce qu'on est coincé et en même temps on est tous libres, en même temps on est tous enfermés. Ouais, je vois le...
Ouais, je comprends, c'est un peu ça.
Ça m'a pas marqué directement en voyant le film, mais en analysant, oui.
Après, c'est... Bon, alors, les personnes qui, du coup, n'ont pas vu le film et veulent le voir peuvent s'arrêter là. Mais si je fais une remarque pour spoiler là, plus d'analyse, je trouve que dans la première scène, dans le premier plan, on a tous les dés qui sont déjà lancés dans un seul plan. C'est-à-dire comment, en fait, on nous évoque le fait que ce meurtre-là est totalement... Alors, je sais pas si tu vas voir le film, du coup. Faudra qu'on coupe. Voilà. ce meurtre-là est totalement lié à la prison, parce que t'as le sang de la personne qui coule sur un passage piéton. Et je trouve que littéralement, toute la thèse du film est écrite. C'est-à-dire que pour moi, le passage piéton, c'est la prison. Et du coup, le sang vraiment, voilà, se déverse là-dessus. Donc, on a parce que je me suis dit, mais enfin l'eau avec le sang, ouais. Voilà, et je me suis dit pourquoi filmer ça, et en fait je me dis bah ça fonctionne très bien ce passage piéton là. Il y a d'autres moments aussi où les deux axes scénaristiques se rencontrent et c'est assez intéressant parce que on a le mec qui mène l'enquête qui croise le personnage principal qui est en train d'acheter des cigarettes et en fait on voit qu'ils se connaissent pas et là on comprend que genre enfin ils essaient de c'est ça et en fait que tout le monde se connaît aussi cette interconnexion et le fait que tout le monde se connaisse et connaisse des gens machin et que les informations circulent en scred alors que personne n'est au courant. Donc voilà, en gros je trouve ça très pertinent sur plein de points et sur plein de points de mise en scène, donc ouais, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, je comprends tes remarques, ouais, c'est... bah écoute, tu peux continuer avec ta chronique si tu veux sur la fièvre.
Oui, du coup moi je reviens pour vous parler d'une série, c'est La Fièvre, une série que j'ai finie il y a quelques jours de 6 épisodes, dernière création originale de Canal+, 6 épisodes de 50 minutes environ. Je pense qu'il est intéressant de partir de l'affiche pour que je vous pitche un peu le scénario, ça va me permettre d'avoir une base, parce que j'aime bien partir d'une image ou du moins d'une scène pour présenter un titre. Donc globalement, on a donc le titre principal, la mention de Eric Bensekri, donc on sait déjà que c'est le créateur de Baron Noir, comme ce qui est rappelé sur l'affiche. Il vient de la politique en fait, il a été à Sciences Po Strasbourg, il a fait une prépa ENA, mais finalement il a rejoint la gauche PS en étant collaborateur de Jean-Luc Mélenchon et Julien Drey. Il a suivi le premier d'ailleurs dans son cabinet lorsqu'il était ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et finalement, il a laissé tomber la politique, ou pas complètement, du coup, puisqu'il a décidé d'en faire un autre usage, sans faire de la fiction. Donc il a commencé avec quelques séries sur Canal+, comme Maison Close, puis Lascar, mais il a aussi contribué surtout à l'écriture de Baron Noir, donc une des séries politiques que je conseille absolument sur Canal+, qui est une des meilleures séries de Canal+. Et c'est un réalisateur, un scénariste plutôt, qui a été vachement inspiré par des séries américaines comme Les Sopranos ou alors À la Maison Blanche d'Aaron Sorkin, donc plein de, voilà, de productions aussi HBO, etc. Et du coup, on revient avec une approche qui, sans doute, va mêler voilà, ces visionnages américains. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. Ensuite, La Fièvre, en tant que titre, sans doute, ça va parler en fait, d'une montée en température de quelque chose. Mais comme on sait que ce réalisateur a fait des séries politiques, ça va être forcément une montée en température de la société. D'autant qu'on a sous le titre la précision de « Quand tout s'embrase ». Donc déjà, on peut supposer les ambitions de l'œuvre. On peut sans doute parler de la paranoïa de notre époque. Le tout, en fait, se construit sur un téléphone, présente sur l'affiche aussi, et directement ça nous fait penser à La Fabrique de l'Opinion. On a donc logiquement des ambitions américaines de paranoïa sur les réseaux sociaux, etc., et d'embrasement sur ces réseaux-là. Le tout se fonde autour de deux personnages féminins qu'on peut voir sur l'affiche, interprétés par Anna Girardot, qui est Marie Kinski, une stand-upeuse youtubeuse et influenceuse ultra conservatrice, et d'autre part Nina Meurice, qui va jouer Sam Berger, une conseillère en communication de crise. La série va tourner autour de ces deux axes narratifs dans un combat, un réel match sur le terrain de l'opinion. Match que l'on retrouve là encore sur l'affiche puisqu'on a un terrain de foot et que le scénario en fait va partir du monde du football. On va suivre l'ampleur d'un événement, une altercation en fait à l'occasion d'une soirée lors de laquelle Fodetiam, un joueur noir, va traiter son entraîneur de sale toubab, ce qui veut dire sale blanc, et qui va lever la main sur lui. Il va s'en suivre une situation de crise, avec pour le club une nécessité de faire appel à un cabinet de conseil. Le président du Racing va faire appel à Sam Berger, qui est conseillère en communication de crise. Et pendant ce temps, Marie Kinski va se servir de cet événement pour embraser l'opinion sur un débat identitaire. Donc on peut voir rien que dans ce pitch les ambitions du showrunner. Il va s'agir de parler de la situation d'aujourd'hui, puisqu'en fait il va ancrer son action dans une situation qui peut faire penser par exemple au coup de boule de Zidane, et il va utiliser littéralement le matériel communicationnel, le matériel contemporain de communication de crise pour remplir son scénario. La série va s'apprécier d'ailleurs en fait par cette approche quasi documentaire du sujet. Il y a vraiment des médias qu'on va retrouver à plusieurs moments dans le pitch. D'autant qu'en fait on sait que Canal+ a accès à pas mal de plateaux médias et pas mal de presse, etc., de relations de presse. On a une précision de la représentation des cabinets de conseil particulièrement. Je trouvais que la manière dont on filmait les écrans, les réunions de crise, les espaces de travail étaient ultra pertinents. Et c'est rendu ultra dynamique aussi. Globalement c'est très américain en fait, avec des grands discours qui sont parfois un peu trop écrits, trop pensés. Mais si on peut dire que c'est un peu écrit, etc., je pense que c'est ce qui est entendu par l'approche, qui est d'ailleurs en fait très pédagogique, voilà, c'est voulu. On apprend littéralement lors du visionnage plusieurs concepts
où on en révise pour les plus sociologues d'entre nous et passionnés de sciences politiques, mais voilà, on apprend des concepts comme la fenêtre d'Overton. C'est par exemple une fenêtre en sciences politiques, c'est-à-dire un concept qui permet de mesurer l'acceptabilité de certains discours ou idées. Mais aussi, on va suivre des techniques, par exemple, de surréaction sur les réseaux sociaux. Comment, en fait, sont programmés les tweets, comment des faux comptes sont créés pour embraser, voilà, cette opinion. On a cette idée de bombe nucléaire à chaque fois dans la série, à plusieurs reprises, de fièvre, en fait, qui fait penser au médical, à la naissance d'une réaction biologique suite à un premier déséquilibre. On va voir comment, en fait, tout s'effondre, tout s'enclenche vers, en fait, une explosion, ce qui est répété plusieurs fois dans la série d'ailleurs. Ce qu'on peut reprocher à cette série-là, c'est peut-être sa mise en scène qui est parfois artificielle et manichéenne. On touche en fait à de l'hyperfiction, ce qui est avancé comme concept par Nora Boisséni, une journaliste intervenue lors de l'émission Les Minutes de Culture de Géraldine Moussa-Savoie. Et en fait, moi je pense que c'est plutôt vrai, c'est-à-dire que cette théâtralisation du débat, cette artificialité, cette hyper-réaction peut en fait être lue de manière métacinématographique. C'est-à-dire qu'on va montrer quelque chose d'un peu artificiel parce que c'est ce que les réseaux montrent et c'est ce que dénonce un petit peu la série. Donc je pense que cette lecture, cette expérience de métacinématographie est quand même une bonne lecture. D'autant que voilà, on a cette opposition entre une personne très humaniste, qui est peut-être trop, un ultra-conservatisme qui est vraiment dans la jouissance de la nomination des masses, etc. Et donc ce côté trop écrit peut être justifié comme ça. On a littéralement voilà, des travelling qui sont ultra dramatiques à des moments, des close-up, une caméra qui tourne autour de ces personnages, des idées de mouvement perpétuel qui rappellent en fait ce mouvement sur les réseaux. Ce qu'on retrouvait déjà en fait, c'est Baron Noir, mais c'était pour une autre logique que celle de la théâtralité. On comprenait en fait les relations entre les forces politiques sans forcément comprendre les mécanismes politiques qui étaient derrière. Et dans un souci d'intelligibilité, on avait ces mouvements de caméra qui permettaient de montrer que telle personne était vraiment en deux mèches avec telle autre. Donc il y avait cette construction qui était assez intéressante, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir tout compris dans Baron Noir pour comprendre voilà, les axes scénaristiques et les rapprochements entre les différents protagonistes. Mais là, on a plutôt cette utilisation du mouvement parce qu'on est dans un côté drama, dans de l'emphase, d'où le titre d'ailleurs qui est vraiment déjà emphatique, La Fièvre, avec une mise en scène qui est brûlante, à proprement parler. Et du coup, concernant la réflexion sur ce qu'est la catastrophe, je trouve que c'est assez jouissif d'aller jusqu'au bout de ce sujet-là. La politique semble être partout. Tout mène à débat. Tout événement, même le plus anodin, sportif, culturel, à petite échelle, voilà, peut donner lieu à un débat politique. Et du coup, je trouve qu'on peut saluer le travail d'acuité, le travail documentaire qui a été fait pour saisir l'image de la société en poussant les curseurs au maximum. Donc c'est une série que je conseille. C'est une série que j'aurais peut-être travaillé notamment un peu plus sur les personnages secondaires, sur les intrigues amoureuses. Je comprends pas exactement pourquoi il y a eu certains moves de certains personnages, comment on est arrivé là. Et en fait, c'est de manière parfois un peu assez attendue, parfois assez bancale, qu'on va aborder certains sujets. Donc notamment des réflexions sur un enfant qui potentiellement se demande s'il est au potentiel pour le fils de la protagoniste, voilà. Donc, une solitude par rapport à ses réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a certaines idées qui, certes, essaient de mettre cette série dans un paysage contemporain, mais ne sont pas spécialement utiles. Elles sont voilà, un peu rajoutées comme ça, et je pense que ça aurait été mieux de se concentrer sur d'autres choses qui sont déjà bien plus creusées et de ne pas essayer d'ouvrir tant de portes à certains moments. Mais sinon, je conseille vraiment cette série et je conseille aussi pour des personnes qui n'ont pas vraiment le temps de regarder 6 épisodes de 52 minutes, une petite série qui est disponible gratuitement sur Arte qui s'appelle Samuel par Émilie Tronche. Donc il y a pas mal de gens qui en parlent en ce moment, mais c'est littéralement une série qui se garde super bien. Et qui parle du coup de Samuel, un élève en CM2, voilà c'est ça, de 10 ans, qui va raconter son quotidien à l'école. Je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est une création qui date du confinement, et littéralement c'est passionnant, donc je conseille ça, et c'est gratuit en plus. Donc voilà. Et du coup à toi Alix de nous parler de ton coup de cœur.
Alors moi, je vais vous faire mon coup de cœur sur La Vague. Alors oui, c'est un petit peu cliché des cours de français de lycée, mais j'ai dû le revoir et l'étudier à nouveau dans un cours, donc je me suis dit, bon, autant vous en reparler, parce que c'est vrai qu'il était quand même vachement bon ce film. Donc c'était un film allemand réalisé par Dennis Ganzel, si je n'écorche pas le nom, qui est sorti en 2008, et en fait, qui s'inspire d'une sacrée suite d'œuvres et d'expériences,
En fait, il s'inspire librement du roman de Todd Strasser, publié en 81, qui est lui-même adapté du téléfilm sorti la même année, et qui met lui-même en scène l'expérience psychologique groupale réelle qui a été menée en 67 par le professeur Ron Jones au lycée de Kimberly à Palo Alto, en Californie. Donc c'est quand même un sacré film, qui a une sacrée histoire en fait. Et en parlant de l'histoire, ça raconte donc le quotidien de Rainer Wenger, qui est un prof allemand proche de ses élèves, qui va décider, dans le cadre d'un cours sur l'autocratie, de réaliser une sorte de jeu de rôle grandeur nature pour faire l'expérience d'un régime autoritaire avec ses élèves. Alors évidemment, bah, ses élèves au début, ils sont sceptiques et ils se disent que c'est impossible que un régime autoritaire puisse se réaliser à nouveau à leur époque, parce qu'ils sont assez éduqués, ils sont informés, ils ont quand même tiré les enseignements du passé, alors que finalement, l'expérience du prof va prendre une ampleur complètement inespérée, en fait. Et ce qui n'était censé être qu'un exercice pédagogique va vite se transformer en un véritable parti, donc la vague, qui va se propager partout dans l'établissement en seulement quelques jours, et qui deviendra très vite hors du contrôle du prof. Donc le film, il va aborder la création d'un mouvement autoritaire et dictatorial en soulignant vraiment surtout la rapidité et la facilité avec laquelle l'autoritarisme séduit les individus, qui sont pourtant éduqués, prévenus, tout ce que vous voulez, et surtout en s'intéressant particulièrement à la malléabilité d'esprit des jeunes et des ados et des jeunes adultes. Donc voilà, le choix du réalisateur de faire se dérouler l'histoire qui est à l'origine américaine, en Allemagne, ça fait que appuyer cette idée, puisque on prend vraiment le cas extrême. C'est encore plus difficile pour nous d'imaginer qu'aujourd'hui, après le traumatisme du Troisième Reich, que les Allemands ils puissent adhérer à nouveau à un régime autoritaire. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe dans le film. D'un côté, la vague, elle se construit sur l'idée de communauté, sur le groupe, sur l'entraide, pour vraiment rejeter l'individu, pour préférer le groupe. Et d'un autre côté, le prof va renforcer son pouvoir sur la classe en renforçant en appliquant de plus en plus de restrictions, l'uniforme, le vouvoiement, le fait de se lever de la chaise, etc. Et en fait, le professeur, il va totalement se proclamer le leader du mouvement au nom du bien de la communauté. Donc, voilà, on a plein de petits éléments comme ça qui font que, oui, certes, le film, il est romancé, il parfois tombe dans la caricature, mais d'un autre côté, c'est très difficile de ne pas traiter le film avec un regard biaisé, forcément. Et puis d'un autre côté, on coche à peu près toutes les cases de l'autoritarisme et on traite des éléments du régime autoritaire de façon assez fidèle à la réalité, en fait. On parle de la création d'une identité commune, du sentiment d'appartenance à un groupe, de l'uniformité, d'abord des tenues et des comportements, puis des esprits, l'exclusion, la persécution des marginaux, ou l'admiration d'un chef qui aboutit presque au culte. Et en fait, tous ces éléments-là, on peut les retrouver assez facilement aujourd'hui séparément, mais il suffit de les réunir pour tomber sur un régime catastrophique, quoi. Donc voilà, c'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement intéressant, et au-delà du très bon scénario et du message fort que nous envoie le film, la réalisation, elle est au rendez-vous. Et c'est ça qui est sympa avec ce film-là, c'est parce qu'on pourrait s'attendre vraiment à ce que le message il soit vraiment mis en avant et préféré carrément à la réalisation, qui aurait pu vraiment être un peu bateau, alors que là, finalement, c'est assez impressionnant. J'avais un petit peu oublié ça, et c'est en me replongeant pour étudier à nouveau le film en cours que je m'étais rendu compte de l'intelligence de la réalisation, en fait. On a plein de jeux de miroir qui sont extrêmement intelligents, qui renvoient le prof, qui parle à son élève, en fait, à lui-même et à son reflet. On souligne aussi que derrière un beau discours ou une personne charismatique, on a toujours un revers de la pièce, une face cachée. Donc, c'est très intéressant. On a aussi des plans qui accentuent toujours cette opposition, ce contraste, la dualité entre les élèves et le prof, avec des plongées, des contre-plongées, des alternances entre des vues sur la foule anonyme et sur le prof qui, lui seul, concentre tous les pouvoirs. Donc voilà, on a une réalisation qui est quand même très bien. Alors certes, on n'innove pas non plus, c'est pas un bijou d'esthétisme non plus, faut pas se mentir, mais d'un autre côté, la réalisation, elle est quand même très efficace et elle sert à appuyer le message qui est lui-même extrêmement fort. Donc ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. Et si vous l'avez pas vu, bah foncez, parce que c'est quand même un gros 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 classique. Surtout à Sciences Po, c'est important de le voir. Et puis ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'était mon coup de cœur sur La Vague. Merci à tous de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'à la fin, surtout. C'était l'épisode 19 de Popcorn Sucré. J'espère qu'il y aura un épisode 20. Mais sinon, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous à la mi-mai, on va dire, pour l'arrivée des carnets canois. Donc, trop hâte. Salut !